Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec Céline Pina. Bonjour Céline.
Bonjour Jérémy.
Et avec Martin Pimentel. Bonjour Martin.
Bonjour Jérémy.
Eh bien Martin, cette semaine, vous déplorez qu'en France, on ne dise pas les choses.
Même si pour beaucoup d'étrangers, les Français ont l'image d'un peuple fort en gueule et qui ne s'en laisse pas compter, effectivement, Jérémy, nous allons voir aujourd'hui qu'il n'en est rien et que nous n'avons en réalité pas notre pareil en tant que peuple pour mettre la poussière sous le tapis. J'en veux pour preuve deux exemples récents piochés dans l'actualité de la semaine de l'Hexagone. Alors je vous préviens tout de suite, ces deux événements n'ont rien à voir entre eux. Il y a tout d'abord les hésitations embarrassantes de Madame Nicole Belloubet, nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Ensuite, il y a cette affaire plus anecdotique et beaucoup plus légère de la crise de nerfs entre deux personnalités participant à l'émission de TF1 « Danse avec les stars », Inès Reg et Natacha Saint-Pierre.
Je sais tout à fait qui est Madame Belloubet. Mais je ne connais pas ces deux autres individus.
Alors, concernant la télévision, en France comme ailleurs, on raffole évidemment des clashs entre célébrités. C'est toujours la garantie d'avoir de bons scores à l'audimat. Mais dans le concours de danse diffusé le vendredi sur TF1, les producteurs machiavéliques du petit écran poubelle sont peut-être et involontairement allés un peu loin. Alors, l'affaire de la confrontation entre l'humoriste de 31 ans, Inès Reg, et de la chanteuse québécoise de 43 ans sur le retour, a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, depuis qu'il a été révélé au public que les deux femmes se sont crêpées le chignon en coulisses. Et l'affaire va assez loin, car Inès Reg est accusée de menaces de mort et que des mains courantes ont été déposées à la police, car Natacha Saint-Pierre se dit terrorisée par la comique ou son entourage. C'est le Parisien qui, le premier, avait révélé cette affaire. Les faits remontent au 31 janvier. Inès Reg et Natacha Saint-Pierre sont alors en répétition de danse. Chacune est en train de préparer sa chorégraphie dans une salle, mais malheureusement pour Natacha Saint-Pierre, sa salle est à côté de celle de la jeune Inès Reg, et un conflit de voisinage va éclater. Apparemment, Inès Reg estime alors que la musique dans la salle de sa concurrente est trop forte et que cela l'empêche soit de se concentrer, soit de filmer une séquence de son côté. On ne sait pas trop bien. Bref, elle va réclamer le silence dans l'autre salle et le ton serait alors monté. Tout serait parti d'une blague de la Québécoise qui, au moment où elle se serait enfin mise d'accord, aurait balancé à la jeunette « Maintenant, petite salope, tu sors ». Cette fameuse séquence a été filmée, et alors que ces derniers jours, les deux célébrités s'affrontent sur Instagram en présentant leur version des faits, les fans de l'émission réclament à voir cette image. Car en fait, l'issue de cette affaire dépendra peut-être du ton qui est alors employé par Natacha Saint-Pierre. Elle affirme que c'était une boutade, une mauvaise blague, elle s'est excusée, quand l'autre assure qu'elle a été violemment insultée. Ça peut être très susceptible, ces jeunes banlieusards. Reg est d'origine algérienne, elle a grandi en banlieue parisienne et elle s'est d'abord fait connaître sur la scène humoristique communautariste du Jamel Comedy Club. Et en tout cas, devant la réaction de l'humoriste et de son entourage, qui aurait proféré des menaces et des insultes, Natacha Saint-Pierre et son danseur, Anthony Colette, prennent peur et sont allés à la police. On ne sait jamais. De son côté, Inès Reg dénonce sa concurrente de Danse avec les stars. Alors je la cite, « Je suis l'arabe du 93 de cette histoire ». A-t-elle par exemple observé dans une story Instagram où elle se dit dévastée par les mensonges et les attaques dont elle fait l'objet après l'article du Parisien. Et ses soutiens accusent Natacha Saint-Pierre d'être une carène. Alors, Jérémy, pour les racialistes, ces dernières années, une carène, c'est devenu un mème très répandu sur Internet pour parler d'un type de femme de la classe moyenne qui présenterait des comportements associés à ses privilèges blancs. Et effectivement, Inès Reg prétend que Natacha Saint-Pierre jouerait les victimes, elle sous-entend qu'elle serait raciste. Lors d'une de leurs explications visant à apaiser les choses, Inès Reg aurait carrément déclaré « Ah oui, je vois, on est des Noirs et des Arabes, c'est ça qui t'a fait peur, ça s'appelle du racisme. » Alors on ne sait pas comment se passera la prochaine émission, ni si les deux candidates vont encore pouvoir simuler l'entente parfaite devant les caméras. Mais cela donne presque envie de regarder. Reste qu'en attendant, devant l'ampleur de la polémique, beaucoup des autres danseurs semblent prendre le parti d'Anthony Colette, le danseur donc de la Québécoise. Il y a aussi des bruits indiquant qu'Inès Reg n'adressait pas la parole aux drag queens noires qui ont circulé. Et enfin, une dernière rumeur avance que dans une autre émission, la comédienne Chantal Ladsou aurait aussi eu un accrochage avec Inès Reg, ce que Ladsou dément.
Eh bien, passons de cette cour de récré pour adultes, entre guillemets, à l'école en tant que telle.
Oui, ce qui se passe à l'école mérite évidemment plus d'attention. Et plusieurs de nos contributeurs réguliers chez Causeur ont effectivement évoqué Nicole Belloubet cette semaine dans nos colonnes. Il faut dire que la ministre est également dans la tourmente, avec deux polémiques cette semaine de son côté. Premièrement, il est beaucoup reproché à la ministre de ne pas vraiment vouloir mettre en place les groupes de niveau au collège, comme l'avait annoncé Gabriel Attal. Deuxièmement, et là c'est un véritable scandale, on lui reproche sa mauvaise gestion de l'affaire du proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris 20e. Lequel était menacé après avoir demandé à des étudiantes de retirer leur voile islamique. Il vient d'annoncer qu'il démissionnait. Alors, concernant les groupes de niveau, Madame Belloubet mettra finalement en place, je cite, « des groupes de besoins ». Elle préfère cette appellation car elle craint vraisemblablement une rébellion des profs de gauche à l'idéologie égalitariste. Selon notre contributeur de Causeur, Gabriel Robin, avec cette controverse, l'école révèle en fait tous nos mots français. Je le cite, « L'école n'est que le révélateur des mots français. L'autoritarisme sans l'autorité. Le concours à l'asiatique sans la discipline et le travail acharné. La pédagogie positive à la scandinave sans l'authentique liberté. L'obsession du diplôme comme cache-sexe à la bêtise. La diversité, entre guillemets, masqué par l'uniforme, une école garderie et à plusieurs vitesses qui ne développe pas plus les esprits qu'elle ne donne une solide instruction. Notre école réussit l'exploit d'être rigide et laxiste. Fermez le banc. » Alors, concernant le malheureux proviseur menacé et visé par des accusations mensongères de gamines voilées endoctrinées, Gabriel Attal, le Premier ministre, a dû voler au secours de Nicole Belloubet. Après avoir reçu le proviseur mercredi midi, il a annoncé jeudi soir que l'État porterait finalement plainte pour dénonciation calomnieuse contre l'élève voilé. Le pas de vague, ce serait fini, nous assure-t-on au gouvernement, malgré cette défaite en race campagne. Nous verrons bien, reste que ce type d'affaires se multiplie. Notre problème, vous l'avez dit en introduisant mon intervention, Jérémy, c'est donc qu'en France, on ne dit pas clairement les choses. Comme chacun sait pourtant, la parole libère. Et n'importe quel étudiant en première année de psycho sait que si le refoulement est un bon moyen d'autodéfense pour les individus, ce n'est qu'en posant des mots sur les problèmes qu'on s'en libère efficacement. Comment voulez-vous, Jérémy, solutionner des problèmes dramatiques comme la baisse du niveau scolaire en France ou le séparatisme d'une partie non négligeable de la jeunesse issue de l'immigration? Comment solutionner ces problèmes dramatiques si vous n'énoncez pas clairement face aux personnes concernées ce qui doit changer? Par exemple, Inès Reg doit pouvoir comprendre que ce sont les comportements et intimidations dignes de racailles de banlieue qui posent vraiment problème, quand bien même des mots inappropriés ont d'abord été prononcés à son encontre. Et les professeurs doivent pouvoir comprendre que c'est dans l'intérêt général que d'écarter les mauvais élèves au collège, ou de les orienter plutôt vers d'autres filières peut-être plus adaptées pour eux. Les formations manuelles manquent de bras en France. Mais que ce soit les professeurs, les élèves musulmans qui disent ne pas comprendre la laïcité, ou des starlettes ayant pour public les jeunes de banlieue, oui, en France, on ne dit jamais les choses.
Merci Martin. Eh bien Céline, vous allez maintenant nous transporter aux États-Unis, si j'ai bien compris.
Oui, les voyages forment la jeunesse, et pas que la jeunesse d'ailleurs. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous amener aux États-Unis? Bon, ben figurez-vous que depuis le 7 octobre, il faut quand même reconnaître que mon moral n'est pas au plus haut, Jérémy. Et je suis tombée sur une nouvelle qui m'a fait énormément de bien. Il se trouve que un sondage est paru il y a 2-3 jours, sondage Caparis Harvard, qui a essayé de tester l'opinion publique américaine pour savoir ce qu'elle pensait du conflit Hamas-Israël. Et étonnamment, les résultats sont plutôt en faveur de Israël. 83% des sondés qualifient les attaques du 7 octobre d'actes terroristes. Plus de 80% des Américains soutiennent Israël dans sa guerre contre le Hamas. 74% estiment que l'action du Hamas relève du génocide. 75% trouvent que l'attaque du 7 octobre est parfaitement injustifiable. Voire même, Netanyahou est plus populaire aux États-Unis que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, qui est un démocrate et qui ne cesse d'attaquer Netanyahou et de demander à Israël de s'en débarrasser. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas opposée à ce que pense Chuck Schumer. Je pense simplement qu'en lui renvoyant cette image-là, les États-Unis expliquent de façon très claire que c'est un peuple de déterminer ce qu'il veut faire, et peut-être aussi le peuple américain estime qu'effectivement en situation de guerre il est parfois compliqué de changer son dirigeant, quoi qu'on puisse en penser par ailleurs. Mais ce qui est intéressant dans ce sondage, quand on creuse un petit peu plus, c'est la différence de positionnement entre les plus âgés et les plus jeunes. Là où, par exemple, si on prend le fait que 83% des sondés qualifient les attaques du 7 octobre d'actes terroristes, eh bien c'est 94% quand on touche aux plus de 65 ans, mais ça va baisser à 74% chez les 18-24 ans. Sur la question de savoir, par exemple, si Israël commet un génocide, la réponse est non pour la plupart des Américains, sauf pour ceux de 18 à 24 ans qui, à 57%, sont d'accord avec cette affirmation. Il y a donc un différentiel énorme selon l'âge. Pourquoi ce différentiel? D'abord parce que les plus de 65 ans ont grandi dans un monde marqué par la Seconde Guerre mondiale et dans lequel les horreurs du nazisme et la Shoah ont construit tout leur rapport aux politiques et tout leur rapport finalement à ce qui devait être la limite posée dans le cadre des relations internationales. À quel moment est-ce qu'on doit intervenir parce qu'en fait un pays sombre dans la barbarie et vous menace de façon extrêmement directe. Mais surtout, ce que l'on remarque dans la différence entre les plus âgés et les plus jeunes, c'est le travail gauchiste ou wokiste fait sur cette population. Il est évident que les wok, les islamo-gauchistes chez nous, ou les racialistes, ne vont pas essayer, le public n'est pas les plus de 40 ans, c'est clairement les moins de 25 ans. Sur cela, un véritable travail politique est réalisé. Et ce travail politique porte ses fruits. Et si on en veut la preuve, c'est que autant le Hamas est en train de tout perdre sur le terrain et se ridiculise. On a des combattants d'une nullité extrême, à part pour aller tuer des jeunes filles et des jeunes garçons sur un festival de musique. On ne peut pas trouver qu'ils fassent preuve de courage ou de capacité extrêmement impressionnante. En revanche, sur le plan idéologique, ils sont en train d'imposer un récit qui est un récit atroce, parce que le problème, c'est que les trois quarts des gens qui achètent ce récit sont clairement dans la cible et qu'il ne sert à rien de s'allier avec les islamistes. Il se trouve qu'en Iran, les communistes et les gauchistes l'ont essayé, ils l'ont payé de leur vie. Et c'est la théocratie qui s'est installée. Mais pourquoi, finalement, le Hamas a-t-il tant besoin d'imposer son récit sur le potentiel génocide en cours à Gaza? Il suffit d'écouter Mélenchon, par exemple, qui est un grand repreneur de ce type de positionnement politique. Tout simplement parce que l'utilisation du terme génocide dans ce cadre vise à délégitimer Israël, dont l'existence repose en grande partie sur les conséquences de la Shoah. Donc, retourner le problème, enfermer Israël dans ce piège, disant « mais aujourd'hui, vous n'êtes pas légitime à être et à exister, puisque ce qui a favorisé votre naissance, vous êtes en train de le piétiner », est un discours qui est en train de s'installer petit à petit. Or, le problème, c'est que la notion de génocide est extrêmement précise en droit. Il faut qu'il y ait une intention. Il faut que cette intention soit nourrie par ce qu'est l'autre. On va vous tuer parce que, par exemple, vous êtes arabe, parce que vous êtes musulman, parce que vous êtes juif. En fait, on va vous tuer pour quelque chose dont vous ne pouvez pas vous débarrasser, qui est presque inhérent à ce que vous êtes. En fait, le terme génocide est très clairement défini en droit. Il évoque d'abord l'intentionnalité. Il faut avoir l'intention d'éliminer un groupe ou une masse de personnes à raison de ce qu'ils sont. Et cette intentionnalité, elle est définie, elle explique qu'on va s'en prendre de façon indistincte aux hommes, aux femmes, aux enfants, puisque le but du jeu est de vraiment d'éliminer ceux qu'on estime être impurs. Ensuite, en général, ça déclenche des massacres de masse extrêmement importants et vous avez toute une propagande qui légitime ces meurtres par ailleurs. On voit bien que c'est absolument pas le cas dans le cas d'Israël. On a vu, on a même accusé Israël de provoquer des famines. On s'est rendu compte qu'en fait, ça n'était pas le cas. Et que la plupart des difficultés venaient soit de la désorganisation sur place, soit de la volonté farouche du Hamas d'empêcher les distributions de nourriture, et donc qui tuaient les tribus qui pouvaient en fait assurer un minimum de distribution. On a vu qu'il n'y avait absolument pas d'intention génocidaire, on a vu que dans le cadre de l'aide humanitaire, en fait on n'a jamais vu un État faire autant pour ses ennemis, si on peut dire ainsi. On n'est donc absolument pas dans le cadre d'un génocide, absolument pas dans le cadre d'une famine organisée. On est clairement dans une situation de légitime défense et c'est ce que la majorité des Américains ont reconnu et c'est ce que la majorité des peuples pensent. Malheureusement, c'est ce que la majorité de la propagande médiatique, voire politique, essaie d'imposer un récit qui est celui du Hamas, une imposition d'autant plus stupide que ces gens-là nous ont dans le viseur et que pour eux, après le samedi vient le dimanche et que les Juifs ne sont que le premier pas d'une aventure sanglante dans laquelle y passeront aussi chrétiens et musulmans qui ne leur conviennent pas.
Merci Céline pour cette analyse.
Jérémy, tu nous emmènes en Écosse, je crois. Qu'est-ce qui s'y passe?
Eh bien, mon cher Martin, en Écosse, la police de la pensée est en marche. Sous la direction de son premier ministre Rumza Yousaf, le gouvernement wokiste islamo-gauchiste de l'Écosse emprunte un chemin de plus en plus autoritaire. Le signe le plus visible de cette dérive est une loi, dite « loi relative aux crimes de haine et à l'ordre public », proposée en 2020, promulguée en 2021 et qui doit entrer en vigueur le 1er avril 2024. Pour le malheur des Écossais, il ne s'agit nullement d'un poisson d'avril. Quel est le crime que cette nouvelle loi est destinée à sanctionner? Celui de la provocation à la haine, stirring up hatred. Contre qui? Une loi contre l'incitation à la haine raciale existe depuis 1986. Maintenant, il s'agit de punir tout ce qui provoque la haine contre certaines caractéristiques protégées, lesquelles l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle, l'identité transgenre et, catégorie obscure, mais qu'on suppose comprendre toutes les gradations de la non-binarité, et je cite, des variations dans les caractéristiques sexuelles.
Rien n'est prévu pour la grossophobie.
Je suppose que si c'est considéré comme un handicap, ça peut rentrer dedans. Ne sous-estimons pas l'imagination plastique des gens qui seront amenés à appliquer cette loi. En revanche, la catégorie du sexe, qui permettrait de sanctionner le sexisme à l'égard des femmes, n'est pas inclue. Car, selon le gouvernement, il va préparer une autre loi sur cette question. On sent surtout que la cause des femmes est insuffisamment compatible avec celle des trans pour qu'elles figurent côte à côte dans la même loi. Qu'apporte cette nouvelle loi par rapport à la législation déjà existante? D'abord, des peines extraordinairement sévères. La provocation à la haine est punissable de jusqu'à 7 ans de prison. Ensuite, la gamme des situations où on peut fauter est très large. Les publications sur les réseaux sociaux en ligne tombent évidemment dans le périmètre de la loi. Mais on peut être sanctionné pour des paroles tenues dans l'intimité de sa propre maison. Ce qui veut dire que, à la limite, des enfants peuvent dénoncer leurs parents. Les représentations théâtrales sont aussi dans le viseur de la justice, comme dans un retour à la censure d'autrefois. En théorie, certaines pièces de Shakespeare et même certains passages de la Bible, lus par un prêtre à l'église, pourraient attirer des sanctions. Tout indique que les humoristes, les spécialistes du stand-up, les spécialistes professionnels de la provocation, seront dans le collimateur des forces de l'ordre, bien que les représentants de ces dernières insistent qu'ils ne vont pas assister à et évaluer tous les spectacles, heureusement. Beaucoup de spectacles d'humoristes ont déjà été annulés à cause de la pression exercée par l'opinion wokiste. Désormais, les comiques eux-mêmes pourront être mis en taule. La liste des inconvénients ne s'arrête pas là. La porte sera ouverte à la délation. Des centres seront créés où des individus pourront déposer une plainte contre un autre de manière anonyme. De tels centres sont prévus, sans trop de surprise, sur des campus universitaires. Il y en aura même un dans un sex shop à Glasgow, sous prétexte que les gens se confient plus facilement dans de telles boutiques. Si la police décide qu'une plainte ne constitue pas un véritable crime de haine, l'incident reste néanmoins sur le casier judiciaire de l'accusé, sous le qualificatif absurde de « incident de haine non criminel ». La loi sera une véritable invitation à tous les accusateurs vexatoires et abusifs, et les magistrats auront du fil à retordre en démêlant les accusations justifiées des accusations frivoles. Mais peut-être le pire défaut de cette loi, c'est qu'elle ne définit pas le terme fondamental de provocation à la haine. Est-ce que c'est la formule utilisée qui est importante, le ressenti de la personne qui se prétend lésée ou tout autre critère? La responsabilité est déléguée aux policiers et à leur jugement subjectif. Si la loi n'entre en vigueur que 3 ans après sa promulgation, c'est parce qu'il a fallu tout ce temps, non pas pour former la police à cette nouvelle tâche, mais concevoir le programme de formation. Pour le moment, tous les signes indiquent que la préparation en vue de la date du 1er avril a été rudimentaire et axée surtout sur une approche autoritaire et répressive. Selon le secrétaire général de la Fédération de la police écossaise, sont réunis, et je cite, « tous les ingrédients d'une catastrophe ». Les forces de l'ordre disposent-elles des ressources nécessaires pour gérer l'avalanche de plaintes qui risquent de se déchaîner? Au mois de mars, la police a déjà annoncé qu'elle allait cesser d'enquêter sur des crimes de moindre importance, tels que les vols ou l'image du responsable n'a pas été enregistrée par une caméra de surveillance, faute de ressources. Pourtant, la police écossaise s'est engagée à traiter chaque plainte sous la nouvelle législation. Pour préparer le public, la police a diffusé une vidéo ridicule et condescendante. Un dessin animé de mauvaise facture qui met en scène le monstre de la haine qui se cacherait à l'intérieur de chacun d'entre nous et demanderait qu'à se libérer. Sauf que, comme l'indique clairement la vidéo et d'autres documents publics, il ne s'agit pas de chacun d'entre nous. La cible de cette loi est une catégorie particulière de citoyens.
Il faudra nous mettre cette vidéo sur le site quelque part. Hein.
Bien sûr. Malheureusement, elle est en anglais et la voix est à un très fort accent écossais. Mais c'est un exemple du ridicule wokiste. Alors, quels sont les citoyens qui sont visés par cette loi? Eh bien, on nous apprend que la haine serait surtout le fait de personnes qui se sentent économiquement défavorisées, mais qui croient posséder des privilèges parce qu'ils sont blancs. White entitlement. C'est un peu comme le white privilege. Tu vois, vous voyez? Eh bien, autrement dit, la loi vise spécifiquement les classes ouvrières blanches, notamment les mâles en colère, les gens que les élites progressistes méprisent plus que toute autre catégorie. Mais la loi est adaptée aussi à des cas individuels. J.K. Rowling habite à Édimbourg. Dans un cas sur lequel la police s'est entraînée, une femme nommée Jo a le tort d'affirmer qu'il n'y a que deux sexes. Il est clair que c'est l'auteur de Harry Potter qui est visé. Comble de la mauvaise foi, cette Jo imaginaire aurait déclaré que les trans devraient être envoyés dans des chambres à gaz. Non, malheureusement, ce n'est pas un poisson d'avril de mauvais goût. Et pour assombrir encore plus le printemps qui arrive, nous venons d'apprendre que le gouvernement irlandais prépare une loi similaire. Et merci à nos auditeurs. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Merci à tous nos auditeurs et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.